Hello my love. En 2024, j'ai des offres de folie qui arrivent et j'avais envie de t'en parler pour que tu puisses potentiellement rejoindre une de mes aventures. Tout d'abord, mon challenge de yoga Detox and Shine qui arrive du 8 au 14 janvier 2024. Un programme conçu pour détoxifier après les fêtes et briller dès le début de l'année. Ce programme va te motiver et t'aider à prendre soin de toi sans cette charge mentale de « bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui déjà ?» Tu seras soutenue par toute une communauté de femmes comme toi qui ont l'envie de se dégager du temps pour prendre soin d'elles. J'ai hâte de te retrouver pour cette énergie de folie dès le début de l'année. Et ça va de soi, tous les lives sont disponibles en replay pendant une année. Pour t'inscrire, rendez-vous sur anoukcoroller.com/detox. Si tu souhaites te former aux pratiques du yoga, du chamanisme et du développement personnel, rejoins mon 200 heures Yoga Teacher Training accrédité Yoga Alliance. Apprends à enseigner le yoga vinyasa, mais aussi à guider des cercles de parole, découvre les philosophies anciennes du yoga, de l'ayurveda, et apprends toutes mes clés pour t'épanouir professionnellement. Il reste quelques places pour cette première session qui se déroulera à Meta Villa, dans un lieu magnifique en pleine nature, dans le Pays Basque, en mai, puis en août 2024. Enfin, si tu es entrepreneuse dans le milieu du bien-être, que tu es un petit peu perdue, un petit peu désorganisée, que tu as souvent des doutes et des difficultés à vraiment t'installer dans ta pratique entrepreneuriale, laisse-moi devenir ton mentor business. J'adore aider les femmes comme toi à s'épanouir davantage dans leur présence entrepreneuriale pour pouvoir vivre confortablement de ton projet de cœur. Pour plus d'informations sur toutes ces offres, rendez-vous sur anoukcoroller.com. Épisode 123 avec Jennifer Laurent. Bienvenue dans la saison 4 de mon podcast. Moi, c'est Anouk, je suis professeure de yoga, une aventurière, et mon terrain d'exploration favori, c'est le monde intérieur. Je pense que, comme l'océan, c'est un univers riche et complexe. Dans ce podcast, que j'appelle aussi mon journal de bord, tu trouveras tous les mardis, dès 7h du matin, un nouvel épisode de moi ou de mes invités, pour apprendre à mieux naviguer sur l'océan de ta vie, c'est-à-dire à rayonner dans tous les domaines et vivre ta meilleure vie. Pour recevoir plus d'informations et de partages, rendez-vous sur mon site internet anoukcoroller.com et inscris-toi à ma newsletter. Et pour commencer cet épisode, je te souhaite plein de merveilleuses choses pour ton année 2024. Je te souhaite d'être aligné avec ton cœur, avec tes ressentis profonds. Je te souhaite de croire en toi, en tes rêves. Je te souhaite de l'amour, des connexions authentiques. Je te souhaite de l'abondance, des opportunités, de l'abondance financière qui soutiennent tes rêves, tes visions, tes expériences, ton kiff. Je te souhaite de rire, de te marrer, de pleurer parfois, de vivre cet arc-en-ciel émotionnel. Je te souhaite des aventures, de la nature, du respect. Je te souhaite d'arriver à dire non, arriver à dire oui. Je te souhaite de vivre, ma belle. Je te souhaite tout ça. Et je me le souhaite à moi aussi et je nous le souhaite à tous. Et merci encore une fois de faire partie de cette aventure. We're doing it again, une année en plus du podcast. J'ai commencé à sortir des épisodes hebdomadaires il y a 2 ans maintenant. Who knew I would be here still? And I'm very, very excited. Donc, merci beaucoup. Cette semaine, je reçois une femme qui m'a énormément inspirée. Elle s'appelle Jennifer Laurent. Elle est conseillère en naturopathie spécialisée en gynécologie. Elle a commencé sa pratique il y a 3 ans et aujourd'hui, elle a accompagné plus de 300 femmes à retrouver leur pleine santé et un confort gynécologique. Infertilité, SOPK, endométriose, troubles du cycle menstruel, infections vaginales chroniques. Elle aide les femmes à retrouver la souveraineté de leur corps et de leurs émotions et à guérir, bien sûr, ces symptômes. Elle est également l'autrice de 3 livres numériques qui accompagnent les femmes à retrouver l'équilibre et apportent un savoir approfondi et précis sur certaines pathologies. Renverser son SOPK, favoriser la fertilité, retrouver la pleine vitalité. Elle est convaincue qu'apporter le savoir et la connaissance aux femmes est une manière de les guider vers plus d'émancipation et d'empowerment dans leur vie. Dans l'épisode, Jennifer nous explique ce qu'est la naturopathie gynécologique et ce qui l'a amenée à se tourner vers cette spécialité, les troubles gynécologiques qu'elle observe le plus, ses conseils pour aller vers une ménopause épanouie et confortable, les bonnes habitudes à mettre en place dans notre quotidien pour une bonne santé hormonale, mais aussi une bonne santé vaginale. L'importance de connaître notre cycle menstruel, les différents types de contraception et comment trouver celle qui vous convient, et tellement plus. C'est un épisode que je vais réécouter tellement il est riche et tellement j'ai appris de choses. Pour retrouver Jennifer, vous pouvez aller sur son Instagram, jenniferlaurent.naturo. Et pour prendre rendez-vous avec elle ou retrouver ses livres, alors rendez-vous sur son site internet, jenniferlaurent.com. Et puis, toutes les ressources que nous mentionnons avec Jennifer, vous les retrouverez dans la fenêtre de l'épisode. Je vous laisse sans plus tarder avec cette conversation et je vous retrouve à la fin de l'épisode. Très belle écoute. Bienvenue sur le podcast, Jennifer. Merci beaucoup de prendre le temps pour cette conversation et pour partager avec nous toutes tes connaissances, tes savoirs. Je suis super excitée de cette conversation parce que voilà, tu es la première qui vient nous parler de ces sujets-là. Et donc, pour à la fois te présenter et présenter aux gens qui t'écoutent ce que tu fais, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la gynécologie naturopathique et qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es tournée vers cette spécialité?
Déjà, merci de m'accueillir sur ton podcast. Qu'est-ce que la gynécologie naturopathique? C'est assez simple, c'est la naturopathie qui est tournée vers les troubles gynéco, donc c'est assez simple. En fait, en gynécologie, donc la gynécologie comme on l'entend en médecine traditionnelle, on vient s'occuper des troubles hormonaux de la femme, des cycles menstruels, de la contraception, après des pathologies comme l'endométriose, le SOPK, l'infertilité, etc. Et en gynécologie traditionnelle, on va plutôt chercher des solutions qui sont plutôt tourné vers les médicaments. Et il y a 2 options, hein. C'est soit on booste les hormones, soit on les éteint. Voilà, c'est un peu soit on fait taire le cycle menstruel de la femme, soit on essaye de le booster quand il y a de l'infertilité, mais c'est un peu 2 solutions qui existent. La naturopathie, dans ces troubles-là, elle vient s'insérer au milieu, j'ai envie de dire. Elle vient, nous on va plutôt, en général, chercher plutôt la régularisation, c'est-à-dire retrouver l'équilibre dans un système qui, au naturel, logiquement, fonctionne bien. Donc, dans la fertilité, on va venir chercher à remettre de l'équilibre dans l'organisme pour retrouver les capacités de fertilité de la personne, que ce soit l'homme ou la femme, pour le coup. On va venir rechercher un cycle sans douleur, sans hémorragie, etc., à travers le rééquilibrage de nos hormones et non pas en venant taire un symptôme ou... Voilà, on vient réguler. Donc, en fait, il y a la gynécologie qui vient... autour et la naturopathie qui vient plutôt chercher l'équilibre et le retour à quelque chose de plus normal, quoi. Un fonctionnement qui, si tout allait bien, fonctionnerait bien, quoi. Donc, c'est un peu ça, la gynécologie naturopathique. Enfin, c'est même complètement ça. Bon, c'est un terme qui est un peu inventé, hein. Il n'existe pas vraiment. C'est à force d'avoir autant de naturopathes qui se sont tournés vers ces médecines-là, enfin, ces techniques-là, que le terme est apparu, mais il apparaît plutôt aux États-Unis, des choses comme ça. C'est pas un vrai terme qui existe. Voilà. Et puis, alors, comment j'en suis venue là? C'est assez simple, enfin, assez simple, assez classique. J'ai travaillé pendant pas mal d'années en laboratoire pharmaceutique, donc du côté marketing. J'organisais des événements pour accompagner au mieux les patients diabétiques. À l'époque, j'étais dans le diabète. Et pour faire en sorte qu'ils soient pris en charge de manière plus opérationnelle à travers toutes les médecines. Donc, médecine en ville, médecine à l'hôpital, infirmière, podologue, bref, pour que toutes les médecines, tous les types de médecins qui entourent ce patient puissent être bien accompagnés. Donc déjà, ça a grandi un peu en moi de me dire, ah, une pathologie, c'est une prise en charge pluridisciplinaire, quoi. Mais les laboratoires pharmaceutiques, c'était pas trop trop mon truc niveau valeur. Ça a été hyper compliqué pour moi. J'ai changé de poste plein de fois, plein de fois d'entreprise, parce que ça respectait pas du tout mes valeurs et ma vision de la médecine. Mais je sentais quand même, je voulais travailler dans la médecine. Donc tu vois, il y avait cette ambivalence-là où je me disais quand même, il y a quelque chose que je ne cerne pas, mais que j'ai envie, quoi. Et puis en fait, petit à petit, quoi, j'ai travaillé là-dedans. Et moi, j'ai un Pour la petite histoire, j'ai un SOPK, donc syndrome des ovaires polykystiques, qui touche une femme sur 10, une femme sur 7, les chiffres se contredisent, mais pas mal de femmes, qui est un trouble hormonal de la femme qui vient dérégler les cycles, qui vient créer pas mal de symptômes. Et ça, moi, j'ai été accompagnée en gynécologie classique pendant des années, des années, des années, et ça a été mais une catastrophe sans nom. Je supportais aucune pilule contraceptive, j'avais plein de symptômes, enfin, je ne le comprenais pas du tout et personne ne m'avait jamais expliqué ce que c'était. Jusqu'au jour où je suis tombée sur une naturopathe, justement, pour toute autre chose. Je la voyais pour vraiment autre chose. Et en lui disant que j'avais un SOPK, c'est elle qui m'a expliqué ce que c'était, m'a expliqué les impacts que c'était, etc. Et du coup, je me suis retrouvée à être suivie par une naturopathe pendant 2 ans. Et elle m'a complètement aidée à rééquilibrer mon organisme. Et j'ai découvert mes nouvelles moi. La moi qui était fatiguée depuis l'adolescence, Franchement, je me traînais, quoi. J'ai l'impression d'être une vieille dans un corps de jeune et je comprenais pas parce que personne me l'expliquait. Et j'avais vraiment, moi, un des symptômes qui m'a le plus dérangé, c'est vraiment la fatigue chronique que je ressentais. Et d'ailleurs, dès que mon SPK déséquilibre, c'est ça qui revient en premier. Et là, cette naturopathe, elle m'a changé la vie, hein. Vraiment, elle m'a changé la vie. J'avais plus de phase de déprime, parce qu'il y a ça aussi, hein, système nerveux qui vient au bout d'un moment, vraiment, toqué. Donc, en fait, toutes les phases de déprime, je me disais, c'est mort, je suis une dépressive chronique, c'est pas possible. Non, en fait, c'est juste moi, SOPK, quoi. Et en fait, ça m'a vraiment changé la vie. Donc, tout ça, mis bout à bout, je travaillais dans la santé, j'ai été suivie par une naturopathe, après, j'ai voyagé, j'ai découvert l'Inde, l'Ayurveda, j'ai découvert plein de choses. En fait, c'est petit à petit que ça s'est un peu mis en place. Et je suis devenue prof de yoga d'abord, travaillée dans le bien-être, et puis, c'est naturellement, je me suis dit, mais ouais, mais la naturo, en fait. Enfin, et là, enfin, tu vois, j'ai touché du doigt de me dire, ah, je travaille dans la médecine, du bon côté de la médecine, d'une médecine qui me correspond. Alors, je ne devrais pas utiliser le mot médecine, parce que la naturopathie, c'est pas une médecine, mais en tout cas, j'accompagne les personnes à la santé de la manière qui me semble la plus juste pour moi, quoi. Donc, c'est un peu, ça, c'est un cheminement de 10 ans, en fait, hein. J'ai mis du temps, finalement, à devenir vraiment, à être à ma place, quoi. Mais voilà, quand je suis arrivée à la gynécologie, tout ce cheminement-là et le cheminement personnel où j'ai vu comment moi ça m'a changé la vie, j'ai eu envie d'accompagner d'autres femmes en SOPK, puis après j'ai ouvert un peu ma pratique à tous les troubles de la femme, quoi. Voilà.
Et aujourd'hui, tu accompagnes donc des femmes sur leurs troubles gynécologiques. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ces troubles? Qu'est-ce que tu accompagnes le plus? Qu'est-ce que tu vois le plus?
J'accompagne beaucoup, beaucoup de personnes en désir de grossesse. Que ce soit une infertilité expliquée, donc que ce soit expliqué par la médecine et qu'il y a une pathologie ou quelque chose qui bloque un peu la fertilité, ou bien pas mal d'infertilité non expliquée, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun trouble médical à première vue, il n'y a rien qui bloque et pour autant le couple n'arrive pas à faire un enfant. Donc ça, j'en accompagne pas mal. Donc des personnes soit en grossesse naturelle à essayer en naturel, soit des personnes qui sont déjà en parcours médical, donc en PMA pour faire des FIV ou des inséminations. Et là, on vient booster l'organisme, en fait. Là, c'est des parcours qui sont très individuels, hein. Ça dépend vraiment d'où vient la cause de l'infertilité. Parfois, c'est chez la femme, parfois, c'est chez l'homme. On l'oublie, hein, l'homme, mais Et c'est dans 20-30% des cas, c'est du côté de l'homme, hein. Donc ça, c'est une grosse partie de ma clientèle. Bah, après, forcément, j'ai le SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, parce que je communique beaucoup dessus, parce que j'en souffre aussi. Donc forcément, j'en accompagne beaucoup. L'année dernière, j'ai fait tout un programme en ligne. J'ai un e-book là-dessus. Enfin voilà, forcément, le SOPK, c'est mon petit bébé que j'accompagne beaucoup parce que moi, ça m'a tellement changé la vie que j'ai envie de changer la vie de plein d'autres femmes. J'ai pas mal de troubles du cycle menstruel aussi, donc pas pathologiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème médical entre guillemets, mais par contre, c'est des personnes qui vont avoir des gros syndromes prémenstruels ou des règles hémorragiques, des troubles du cycle qui font que bah, chaque mois, c'est un peu la galère, quoi. Et ça se régule quand même assez vite. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai de l'endométriose aussi. J'accompagne l'endométriose, donc pareil, hein, qui touche une femme sur 10, qui est une pathologie très inflammatoire, qui peut aussi toucher la fertilité. Donc ça, j'en ai pas mal pour rééquilibrer et retrouver un confort de vie malgré les douleurs, malgré tout ça. Et d'ailleurs, sortir des douleurs, c'est pas mal. J'ai un peu de clientes aussi en ménopause, donc en préménopause. D'ailleurs, si quelqu'un qui est en préménopause ici écoute, prévoyez les choses. Ouais, souvent, je les ai un peu tard. Je les ai, elles sont déjà en ménopause et c'est déjà la cata. Alors que les personnes que j'accompagne, 1, 2 ans, quand on voit que ça commence un peu à se dérégler, bah, ça se passe mais tellement mieux. Toujours, hein, la prévention, enfin, ça se passe tellement mieux.
Juste, tu peux nous en parler un petit peu plus sur ce point, par exemple, comment est-ce qu'on fait pour accompagner, pour aller vers une ménopause, j'en dirais
Ouais,
épanouie,
bah
mais
si.
confortable?
Confortable, bah non, mais tellement. C'est la ménopause, ça peut être sacrément costaud et franchement, ouais, il y a tellement de choses à faire. Ce qui est compliqué avec la ménopause, la préménopause, c'est qu'on a bah, nos habitudes de vie qui sont plus ancrées que bah, les autres femmes que j'accompagne qui ont 25, 30, 35 ans en moyenne. Bon, bah, forcément, en ménopause, bah, on est plus autour de 40, 50 ans, un peu plus même, parce que je les ai, elles sont déjà en ménopause. Donc, on est à 50, 55 ans, bah, nos habitudes de vie, elles sont plus ancrées, c'est plus difficile de modifier ça. C'est pour ça que c'est bien de prendre un petit peu d'avance avant qu'il y ait trop de symptômes. Il y a plein de choses à faire. Il y a de l'alimentaire. Clairement, en général, l'alimentaire en préménopause, ça va régler 70% de l'équilibre. Il y a beaucoup de micronutrition. C'est des personnes qui vont. Bah, en fait, ce qu'on oublie en préménopause, c'est qu'on se reprend une puberté hein, dans la tête. Hein. Donc autant ça, on comprend bien que les ados pendant plusieurs années, elles sont chamboulées. Ça, c'est ancré. Oh bah, c'est sa puberté. Par contre, la préménopause, c'est comme si c'était un on-off. Bah non, pas du tout. Ça dure plusieurs années et il y a un chamboulement qui est similaire à la puberté. Et ça, bah en fait, on peut l'accompagner. On peut venir. Le mieux du mieux du mieux, c'est vraiment de venir réguler. Là, c'est un peu de la mécanique. Hein. Moi, je prends souvent l'image du garagiste, je refais les niveaux hein, en préménopause. C'est-à-dire qu'on refait les niveaux en oligo-éléments, en vitamines, en minéraux. Franchement, 90% du temps, ça suffit large pour que la ménopause elle se passe super bien. Et après, il y a certaines personnes qui se sont traînées des déséquilibres qu'elles savaient pas parce que toute leur vie, elles ont bah, été en grossesse ou sous hormones. Et en fait, on les a laissées sous hormones jusqu'à la ménopause. Donc en fait, elles avaient des déséquilibres qui étaient là, mais cachés. Et du coup, là, bah, effectivement, faut user de plus de choses, quoi. On a de la phytothérapie, l'usage des plantes pour venir réguler au niveau hormonal jusqu'à temps qu'on soit en complète ménopause pour éviter, là, tous les symptômes qu'il peut y avoir. Donc, on peut avoir des petites surprises comme ça en préménopause. C'est pour ça que c'est toujours bien d'anticiper quelques années avant et de bah, peut-être arrêter sa contraception hormonale pour voir ce qui s'y passe et puis accompagner ça. Non, il y a plein de choses à faire. Hein, et puis, celle que j'ai en avance, ça se passe hyper bien. C'est carrément possible.
On va y revenir aussi sur d'autres conseils que tu aurais potentiellement à donner pour qu'on ait une bonne relation à notre système hormonal, à tout ça. Moi, j'ai regardé un petit peu ton compte Instagram et il y a un post où j'ai souri et je me suis dit, ah, j'adore ce petit côté un petit peu rebelle de Jennifer. Tu dis, il faut arrêter d'infantiliser les femmes avec leur santé. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par là?
Alors là, c'est mon côté très féministe aussi qui s'est hyper renforcé avec ce métier. Quand on voit tous les jours plein de femmes passer, je suis de plus en plus ancrée dans on n'a pas la place d'exister, quoi, les femmes, hein. Enfin, vraiment, c'est compliqué. Et je trouve que dans la santé, vraiment, moi, j'accompagne, là, depuis 3 ans, j'ai dû accompagner 300, 350 femmes sur plusieurs rendez-vous. Je pense à un petit panel. Je pense que 80% d'entre elles me racontent des histoires où elles ne se sont pas senties écoutées, où on a sous-estimé, voire pas écouté leurs symptômes, des symptômes importants, hein. Alors, des fois, enfin, même les petits symptômes, ils devraient être écoutés, mais parfois, c'est des choses énormes. Souvent, c'est des choses énormes qu'on n'a pas écoutées, on leur explique pas, on leur donne pas de sens, et en gros, on leur dit, bah, c'est ça la solution, basta. Je sais pas, je veux un enfant, on va pas aller du tout creuser qu'est-ce qui se passe. On va dire, OK, soit vous attendez, soit PMA. OK, y a plein d'autres choses entre. Et on leur explique pas SOPK, par exemple, ou endométriose, deux pathologies qu'on voit, un gynécologue, il voit chaque jour au moins une personne avec un SOPK et une endométriose, c'est obligé, quasi obligé. Bah, il y a une solution unique, pilule. C'est la seule et unique solution. Donc, en fait, ils prennent même pas le temps d'expliquer ce que c'est que l'endométriose, ce que c'est que le SOPK, ce que ça peut engendrer. Psychologiquement, c'est très, très dur pour une femme de ressentir autant de symptômes et de pas l'associer à sa pathologie. Moi, des fois, je vois des personnes, ça fait 10 ans qu'on leur a diagnostiqué une endométriose. On leur a jamais expliqué qu'en fait, c'était à cause de l'endométriose, qu'elles avaient une fatigue chronique, qu'elles avaient bah, des phases de dépression, qu'elles avaient certaines choses qui, outre les douleurs du bas-ventre, bah, font partie de l'endométriose. Et en fait, tout s'éclaire psychologiquement. Et là, c'est, je trouve, pas tout le temps, hein, il y a des médecins que j'adore, avec qui je travaille, qui sont géniaux. Il y a vraiment quelque chose qui est en train d'émerger, qui est top. Mais que c'est très, je sais et tu dois suivre. Et c'est très, ouais, c'est beaucoup pour les femmes, quoi. C'est le médecin, il sait. Et il faut pas poser de questions, quoi. Là, avec les informations qui sont de plus en plus à notre disposition, il y a plein de comptes Instagram, il y a plein de choses comme ça. Les femmes, elles viennent avec des questions, elles viennent avec, elles ont fait des recherches, elles s'intéressent, elles cherchent des solutions, elles cherchent, elles sont proactives et elles se font complètement marcher dessus en consultation, en 5-10 minutes de consultation. Bah, je les récupère en pleurs parce qu'elles se sont pris un mur. Parce que le sachant, c'est pas elle, c'est le médecin. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'énerve, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas qui m'interpelle de plus en plus. Et je me bats un peu pour ça auprès de mes clientes pour leur dire, bah, ça, non, ça, bah, vous changez de professionnel de santé. Parce qu'il y en a des géniaux qui sont à l'écoute et qui vont pas minimiser vos symptômes, qui vont pas automatiquement dire c'est dans votre tête, parce que c'est très ça, hein. L'errance médicale, elle touche principalement les femmes, parce que de base, on est estimé comme plus faible, donc plus sensible à la douleur, donc bon, la douleur doit pas être si pire. On est plus, voilà, on est, c'est tout de suite, c'est dans votre tête, c'est le stress. Donc on va d'abord dire c'est le stress, c'est le stress, c'est le stress, jusqu'à 1 an, 2 ans, 3 ans, avant de se dire bon, ok, d'accord. Enfin, c'est vraiment, c'est ça que j'appelle arrêter d'infantiliser les femmes. C'est un peu cette relation de parent à enfant, alors parent un peu dominant en plus, hein, pas un parent très sain, qui vient dire c'est comme ça et pas autrement. Mais le parent un peu, mais pourquoi il se passe ça? Tu verras plus tard, tu verras quand tu seras grand. Et c'est ça. Et c'est cette relation-là que je repère chez mes clientes et qui me dépite un petit peu pour elle. Enfin, moi, je l'ai vécu aussi, hein, et je le vis encore des fois. Mais ouais, je trouve que dans la santé, les femmes sont très, très peu écoutées encore aujourd'hui, et qu'il y a un moment donné, il faut changer ça, quoi. Et c'est compliqué.
Ouais, merci d'avoir mis ça en lumière. Et je sais que même moi, je me rappelle aller voir mon médecin pour un problème et que directement, elle me prescrive genre des trucs qui étaient pas du tout naturels, qui allaient, voilà, juste, enfin, c'était bourré de trucs que j'avais pas envie de mettre dans mon organisme. Et du coup, de lui demander, est-ce qu'il y a une option plus naturelle à ça? Et qu'elle me regarde un petit peu, genre, un peu en roulant les yeux vers l'arrière. Et oui, en fait, il y avait une option plus naturelle à ça. Et je dis, bon, bah, moi, je vais partir avec ça. Et j'ai senti que ça lui plaisait pas, que je pose des questions, que je sois un peu curieuse et tout. Et à la fois, enfin, parfois, je me mets à la place aussi des médecins aujourd'hui qui sont dans un système où, en fait, ils n'ont pas le temps, ils ont besoin d'enchaîner. Puis, en fait, ils ont été éduqués à ce genre de relation. Mais en effet, qu'est-ce que c'est bien de pouvoir se réempouvoirer, reposer des questions et pas être dans cette statue d'enfant, en
Ah
fait.
bah,
Ouais, t'as raison.
complètement, c'est. Et c'est un statut d'enfant très culpabilisant en plus parce que, bah, par exemple, quelqu'un pour infertile ou un SOPK est en surpoids, bah, on va lui dire bah, perds du poids. Non, mais en fait, ça fait 10 ans, 20 ans qu'elle essaye de perdre du poids. Elle le sait. En fait, on lui a répété toute sa vie. Par contre, est-ce qu'on lui a expliqué pourquoi elle n'arrivait pas à perdre du poids? Qu'est-ce qui fait qu'elle n'arrive pas à perdre du poids? Et c'est pas l'alimentation, c'est pas l'activité physique, certes. C'est ce qu'il faut mettre en place. Mais en fait, il y a d'autres choses. Les hormones, ça peut complètement nous empêcher de perdre du poids. Donc, c'est bien mignon de dire à quelqu'un, non, mais perdez du poids, bougez. Mais non, c'est culpabilisant, c'est infantilisant, c'est dégradant. Et il y a vraiment ce roulement de, comme tu dis là, les médecins qui roulent les yeux
Mon Dieu.
en disant, oh, encore une qui veut passer par du naturel, encore une qui veut. Non, mais c'est bon, on a les solutions. Mais comme tu dis, hein, c'est la manière aussi dont on a éduqué les médecins. Hein, c'est eux les sachants. Ils ont 9 ans d'études pour leur dire à quel point c'est les sachants, à quel point un médecin. Moi, je trouve qu'un des meilleurs médecins qui puisse exister, c'est un médecin qui dit je sais pas. Il dit je sais pas, je vais chercher. Mais je crois qu'il y a un truc un peu où c'est impossible, quoi. Enfin, moi, j'avais un médecin, je m'en souviens, je l'adorais. Bah, il me disait, ah bah là, je bloque, je sais pas, venez, on se revoit dans une semaine. Non, mais c'est génial. Enfin, il creuse, il fait pas, il se dit pas, oh, prendre du Doliprane. Donc ouais, je pense qu'il y a un vrai truc de sachant et en dessous, il y a l'autre, quoi. Et ça, ce serait bien de le changer. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye un peu de changer dans mes consultations. Bon, je suis pas médecin, moi, donc ça change un peu peut-être aussi la donne. Et mes consultations, au lieu de durer 5 minutes, elles durent 1 heure et demie à 1 heure. Donc j'ai plus le temps, je prends plus le temps. Mais je trouve que déjà d'écouter les symptômes vraiment en profondeur, mais ça change absolument tout au reste de la relation et à la guérison de la personne, quoi. Donc bon, ce serait bien de travailler ça. Mais les peaux, enfin après, ils sont dans un système qui sont en train de les broyer, hein. Donc c'est pas le médecin qui est mal, hein, c'est le système, hein.
Complètement. Et puis, je pense aussi dans cette relation d'accompagnant, que ce soit voilà, quelqu'un qui est dans cette posture de médecin, de naturopathe, moi je le vois parce que je fais aussi du coaching, il y a une partie où on a envie d'empouvoirer la personne à trouver elle-même ses solutions, à en fait ben, être dans sa puissance personnelle en termes de son propre accompagnement. Et à la fois, il y a aussi un aspect guidance où on va aussi l'orienter nous à travers nos connaissances qu'on a. Donc je pense qu'il y a cet équilibre des deux. Et justement, j'avais envie de voir avec toi cette partie où tu peux nous guider un petit peu par toutes tes connaissances. Donc, pour une femme de mon âge, je viens d'avoir 33 ans, quelles sont les bonnes habitudes qu'on peut mettre dans notre quotidien pour avoir une bonne santé hormonale, pour commencer, parce que je pense que tu vas nous confirmer, mais c'est ça qui fait que notre système gynécologique, menstruel, va être sain.
Alors, pas que, mais effectivement, si on prend soin de notre système hormonal, il y a de grandes chances que le reste aille bien. Moi, c'est ce que je dis souvent à mes clientes. Votre cycle menstruel, par exemple, c'est le bout de votre système hormonal. C'est vraiment les hormones presque pour notre corps, je dirais pas les moins importantes, mais un peu. Donc, si il y a trouble du cycle menstruel, c'est qu'il y a d'autres choses au-dessus qui sont perturbées. Donc c'est un bon indicateur. Moi j'adore les cycles naturels pour ça, c'est que c'est un très bon indicateur. Moi je sais que quand mon cycle se passe super bien, c'est qu'au-dessus ça va. Quand ça se passe moins bien pendant plusieurs mois, je me dis il y a quelque chose. Est-ce que c'est émotionnel? Est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est ma thyroïde? Mais il y a quelque chose au-dessus. Donc le cycle menstruel c'est un bon indicateur de notre santé hormonale au sens large, sachant que notre système hormonal là, avec notre cinquantaine d'hormones, c'est la base de notre santé, hein. C'est sans ça on meurt en fait. Donc du coup c'est déjà j'aime bien rappeler ça, c'est que nous les femmes on a quand même une chance de dingue d'avoir cet indicateur tous les mois qui nous parle de notre santé au niveau de l'organisme de manière globale. Quand notre cycle fonctionne bien, on peut supposer, pas toujours, mais on peut supposer quand même notre organisme va plutôt bien. Donc, c'est quand même une chance par rapport aux hommes. Souvent, on est là, ah, j'aime pas mes règles, etc. Mais c'est une chance de dingue, en fait, de dire, ouais, j'ai mon baromètre là, qui me dit, là, t'as trop tiré, là, t'as abusé, là, t'as pris soin de toi. Enfin, c'est top, quoi. Donc, ça, déjà, j'aime bien le rappeler que bah, c'est un peu la base de notre santé. Et ensuite, comment prendre soin de nos hormones? Bah, déjà, l'alimentation, hein, je le répète tout le temps, mais. La base de tout, c'est qu'est-ce qu'on donne à nos cellules pour qu'elles fonctionnent bien. C'est bête et méchant, mais en fait, ça a besoin de protéines. Les protéines, c'est vraiment... Parce que les femmes, je le vois de plus en plus. Hein. Moi, je suis végétarienne, donc je ne peux pas critiquer, mais c'est vrai qu'il y a de moins en moins de consommation de viande et de poisson, ce que j'entends très bien. Par contre, on oublie qu'il nous faut quand même des protéines. Et je le vois avec les femmes que j'accompagne, ça manque cruellement de protéines, souvent. C'est la structure de nos cellules, hein. C'est les briques. Donc, vous pouvez manger tous les légumes, tout ce que vous voulez, manger hyper bien. C'est comme si vous aviez une maison hyper bien décorée avec des trop jolis meubles, mais il n'y a pas les murs. Bon, bah ouais, super, vous mangez bien, mais ça manque de protéines, quoi. Il n'y a pas les briques de votre maison, quoi. Donc ça, ouais, bien manger, ne pas oublier, là, je te dis ce que je repère souvent, mais les lipides, l'oméga 3, vraiment la source de lipides, de bons gras. Donc les poissons gras, l'huile de colza, des choses comme ça. Pareil, le cholestérol, on en fait tout un truc. Il faut surtout pas un gros cholestérol, cholestérol haut, attention, attention. Toute notre vie, on l'a entendu. Sauf que le cholestérol, c'est la base de la constitution de nos hormones, oestrogènes, progestérone notamment. C'est vraiment, sans cholestérol, on peut pas avoir des oestrogènes et de la progestérone de qualité, la base de notre cycle menstruel. Pareil pour la thyroïde, hein, il y en a besoin aussi. Donc en fait, pareil, on nous a tout le temps dit attention au gras, mangez pas trop gras, mangez pas trop gras. Puis il y a aussi la femme qui fait un peu plus attention à son physique et on lui a dit qu'il fallait pas manger trop gras, etc. Et du coup, bah, c'est des personnes qui, à force, peuvent se retrouver avec un système hormonal qui est un peu défaillant parce que bah, ça manque de cholestérol, tout ça. Donc ouais, ne pas oublier le gras, le bon gras, les protéines et puis bah, de manière générale, bien manger en fait, hein, des légumes, enfin des choses... nos cellules, enfin je sais pas, moi ça me viendrait jamais à l'idée de mettre la mauvaise essence dans ma voiture. Bah c'est pareil. Je vois, il y a 1000 solutions pour avoir une bonne santé hormonale. Je vois passer de partout des plantes, des compléments alimentaires, c'est génial hein, tout ça. Hein. Mais déjà bien manger quoi, revenir à la base de la base de la base quoi. Donc ça ouais c'est ça. Ce que je vois aussi c'est prendre bien soin de sa santé mentale, émotionnelle. Psychologique, de son stress, son anxiété. On vit aujourd'hui dans un climat qui est très, très, très anxiogène. Hein. Il y a pas photo, quoi. Alors là, on va me dire que c'est pas très féministe, mais ça a une réalité quand même. Les femmes, avant, avaient quand même une charge mentale plus concentrée. C'est-à-dire qu'elles s'occupaient de la maison, des enfants. Elles n'avaient pas la charge mentale financière. Elles n'avaient pas tout ça. Et je pense que... Alors, c'est génial, hein, l'indépendance féminine. Je ne vais pas dire le contraire. Voilà. Mais je pense que là, aujourd'hui, il y a un gros basculement, c'est que du coup, les femmes sont devenues aussi bah, des salariés, des entrepreneurs, parfois des chefs d'entreprise, enfin des nanas qui bossent de dingue, tout en gardant toute la charge mentale d'avant. Donc en fait, il y a déjà cette charge mentale interne qui a augmenté depuis 50 ans, quoi, qui a explosé. Au lieu d'être redistribuée, bah, elle a juste augmenté. Et ça, bah, c'est bête, mais ça joue énormément sur notre système hormonal, hein, la charge mentale, le stress, l'anxiété au quotidien. Alors, je ne parle même pas de l'anxiété autour sur tous les autres sujets de la vie qui peuvent être anxiogènes, hein, on ne va pas partir là-dedans. Mais... Et tout ça, je le vois, hein, les personnes, quand elles commencent à travailler sur elles et à trouver des techniques pour apprivoiser leur stress. J'essaye d'arrêter de dire gérer son stress, que gérer, c'est déjà une charge mentale. Mais voilà, apprivoiser son stress, apprivoiser son anxiété à travers des techniques qui nous conviennent. Ça peut être de la méditation, ça peut être du yoga, ça peut être la respiration. Il y en a, elles vont aller courir. Enfin, bref, trouver leur technique, ça peut être l'hypnose, le MDR, enfin bref, la psychologie, bref, peu importe. Mais en tout cas, pareil, avant d'aller sur des compléments alimentaires, des plantes, des choses comme ça, revenir à l'essence de sa santé mentale, comment j'apprivoise mes émotions pour faire en sorte que mon système hormonal soit plus régulé et qu'il y ait moins de up and down, quoi. Donc ça, c'est un peu la base, je pense. Et après, c'est prendre pareil, hein, avant les compléments, avant tout ça, c'est revenir un peu à ses besoins, hein. Je vois beaucoup de femmes qui dorment pas assez. Alors, moi, la première, hein, c'est difficile, hein, avec notre rythme de vie, mais dormir, en fait, juste dormir et puis adapter son sommeil à ses besoins. La semaine avant les règles, on a besoin en moyenne 1 à 2 heures de sommeil en plus. C'est énorme, hein, à caser. C'est essayer de se dire, bah, en fait, c'est mes besoins physiologiques. Mon corps a besoin de ça, tout comme mon corps a besoin de boire, mon corps a besoin de manger, et ben mon corps a besoin de dormir. Ben là, c'est la même chose. Donc, c'est vraiment adapter aussi son activité physique à ses cycles, ça peut être intéressant. On a avant l'ovulation, ben, vraiment cette phase où le corps il va avoir besoin d'évacuer un peu plus. On a vraiment besoin de cette décharge œstrogénique des premiers jours des règles jusqu'à l'ovulation. On a vraiment besoin de relancer cette. Quand je dis décharge œstrogénique, c'est la manière dont le foie va venir déstructurer les œstrogènes et va venir les éliminer dans les selles et dans les reins. Et ça, bah, effectivement, on va avoir besoin d'une activité physique qui va peut-être être plus intense et en même temps, on a normalement plus d'énergie jusqu'à l'ovulation pour le faire. Donc, activer l'activité physique comme ça, c'est bien. Et puis après l'ovulation, bah, on a une petite phase où on peut garder cette activité physique pour, pareil, décharger le pic œstrogénique qui a eu lieu pendant l'ovulation, et puis ensuite se calmer tout doucement. Parce que pourquoi? Parce que le corps, il a besoin de repos la semaine avant les règles. Il a besoin de se recharger, il va utiliser plus de minéraux, plus de vitamines, on va vraiment se retrouver au début des règles à avoir une grosse déperdition de minéraux et vitamines, donc il faut se reposer. Donc tout ça, en fait, ça participe à un bon équilibre hormonal et à une bonne santé de manière générale, hein. Encore une fois, si on prend soin de notre système hormonal, notre santé, elle va que nous dire merci, sur tout le reste, hein. Et après, effectivement, y a plein de solutions, hein, en complémentation. Là, il faut aller creuser avec un professionnel de santé parce que où est-ce que ça se situe, hein? Souvent, on vient cibler notre cycle menstruel. C'est rarement le problème, hein, notre cycle menstruel, hein. C'est l'escalade de symptômes qui fait que à la fin, notre cycle menstruel, il est compliqué. Mais en général, ça se situe au-dessus, hein. Ça se situe soit, je sais pas, un cortisol trop élevé pendant trop longtemps. Ça va se situer sur un trouble de la thyroïde, ça va se situer sur des troubles digestifs trop importants, un niveau inflammatoire trop important, ce qui va impacter notre système hormonal et du coup notre cycle. Donc en fait, tout ça, faut aller creuser et voir qu'est-ce qui est le plus adapté, quoi. Mais si déjà on arrive à mettre en place tout ce qu'il y a au-dessus, on est déjà pas mal, je pense.
Trop intéressant, vraiment, de mettre en lumière aussi que nos cycles, et en fait, ça, c'est le dernier maillon de la chaîne, que c'est un indicateur. C'est hyper intéressant parce que parfois, on est un peu centré là-dessus, alors qu'en fait, on doit se dire non, c'est un indicateur, qu'est-ce qui se passe avant? Et pour le petit partage personnel, moi, l'année dernière, j'ai pris du poids, et franchement, je ne bouffais plus rien, mais j'arrivais pas à perdre de poids. Et à un moment donné, je me dis, mais c'est pas possible, il se passe un truc, parce que là, je crève la dalle et j'ai l'impression que je grossis. Et en fait, c'est parce que mes hormones, elles n'étaient pas nourries. Et comme tu l'as si bien expliqué, je consomme très peu de viande, donc en fait, je consommais pas de protéines. Moi, tout ce qui était légumineuses, tout ça, c'était chiant à faire, donc je ne le faisais pas. Et en fait, du coup, mes hormones, elles n'étaient pas nourries. Et depuis que, voilà, je prends conscience qu'en fait, là, je dois nourrir mon système hormonal. Eh ben, j'ai perdu du poids, puis je me sens juste plus en santé. Donc ça, pour la partie alimentation, trop intéressant, trop important. Et aussi pour la partie émotionnelle, je trouve que chaque fois qu'on a nos règles, on les appréhende différemment, dépendamment de ce qu'on a vécu pendant le cycle. Je sais pas si tu vois ça aussi avec les personnes que tu accompagnes. Enfin, moi, je le vois pour moi. Et ouais, c'est un indicateur aussi de où on en est, même émotionnellement, je trouve.
Ah mais c'est sûr.
C'est trop intéressant.
Pour moi, c'est un baromètre. Plus jamais de toute ma vie, j'éteindrai mes cycles. C'est mon baromètre, c'est comme ma météo intérieure, quoi. C'est vraiment une connexion à soi et à ses émotions et à sa météo émotionnelle de manière globale, quoi. Non mais complètement.
J'adore de mettre en lumière positivement le cycle menstruel.
Ah ouais, j'adore le cycle menstruel, alors.
Faudrait qu'on ait du merchandising, tu sais, des t-shirts. I love my cycle.
Ça doit exister.
Est-ce que tu peux nous parler également de santé vaginale? Parce que je sais que tu accompagnes aussi les femmes. Donc, dans la gynécologie, ça va aussi dans tout l'aspect relations sexuelles. Et donc, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. J'avais envie de te poser cette question-là pour voir voilà, quelles sont pareil, les petites habitudes qu'on peut mettre en place dans notre quotidien pour avoir une bonne santé vaginale.
Ouais, bon, rapidement, c'est sûr qu'il y a, bon, il y a l'alimentation, hein. Là, c'est plus le gras. Vraiment, souvent, les personnes, elles vont manquer de gras. Donc, tout ce qui est oméga-3 et boire. Enfin, c'est bête, mais nos fluides viennent de lipides et d'eau. Donc, déjà, pour avoir une bonne santé vaginale, faut quand même avoir bah, tout ce fluide, en fait, qui peut se créer au niveau de notre vagin. Donc ça, c'est hyper important. On voit beaucoup de femmes qui manquent hein, d'hydratation au sens lipides plus eau. Donc ça, c'est un peu la base. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Ben, un bon savon d'hygiène intime, hein, un truc bien, bien neutre. Je vois les personnes qui ont souvent pas mal d'irritation, elles vont utiliser un savon spécial irritation au quotidien. Non, plutôt aller sur quelque chose de très, 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 très neutre. Et s'il se passe quelque chose, à la limite, sur quelques jours anticipés, mais voilà, vraiment être le plus doux possible, en fait. Enfin, c'est moi, je l'imagine souvent. Enfin, c'est quelque chose de sacré, un peu. Enfin, ça accueille la vie. Ça peut accueillir la vie si on le souhaite. C'est un peu un petit temple, hein. Donc, il y a un peu cette notion. Mais ce que je rappelle toujours, c'est peu importe ce que tu fais, mais y de la douceur. Et je sais pas. Pour moi, ça paraît tellement plus logique et tout de suite on se rappelle qu'on a des choses qui sont en fait pas très je sais pas porter des sous-vêtements qui sont pas agréables à porter les strings à dentelle qui grattent bah non bah c'est bête mais c'est pas comme ça qu'on vient prendre soin de cet endroit-là qui est hyper sensible, hyper doux, hyper ouais, donc quoi. Il y a ça, il y a au niveau de la sphère intime, bah, utiliser du lubrifiant naturel si on peut. Tout ce qui est lubrifiant, la toux chimique qu'on voit partout dans le commerce, ça c'est le pire chose pour détruire sa flore vaginale. Donc vraiment, maintenant il y a des lubrifiants qui sont top, qui sont naturels. Alors bien faire attention si c'est avec ou sans préservatif, mais en tout cas il y a des choses géniales qui existent et qui évitent de perturber la flore intime. Moi, ce que j'essaye de travailler aussi avec mes clientes, c'est bah, ch pas choisir le bon partenaire, mais en tout cas être à l'écoute pour les rapports sexuels. Est-ce que mon partenaire est à l'écoute et sécurisant? En fait, toujours revenir à qu'est-ce qui entre dans cette zone. Pour moi, c'est hyper important. Il y a une sphère physiologique et il y a une sphère énergétique, émotionnelle, où je laisse entrer quelque chose en moi. Je laisse entrer quelque chose. Ouais, c'est pas anodin, quoi. Et donc, cette chose, peu importe ce que c'est, est-ce que c'est fait avec respect ou pas? Est-ce que c'est sécurisant? Est-ce que mon corps l'accepte à 100%, à 1000%? Est-ce qu'il est totalement aligné au fait d'accepter ça? Parce que la personne en face est respectueuse, à l'écoute, etc. Ça, pour moi, c'est une des bases parce que je le vois chez mes clientes, notamment, par exemple, dans les mycoses chroniques ou les choses comme ça, pas toujours, hein. Je dis pas que quand on a des mycoses chroniques, c'est le mauvais partenaire, attention, mais en tout cas, revenir à soi où le corps nous parle, le corps nous parle avant notre tête, souvent, et qu'il y a un moment donné où quand ça se déséquilibre, ben voilà, il y a quelque chose à creuser sur, parfois c'est pas le partenaire, hein, c'est la personne qui n'est plus alignée avec certaines choses, etc., mais en tout cas, il y a une sphère comme ça où je pense qu'il faudrait en tout cas être à l'écoute de ses besoins et s'aligner dans qu'est-ce qui fait partie de cette zone de ma santé vaginale, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce que j'y mets, qu'est-ce que un rapport très c'est pas anodin quoi. Enfin, tout comme je sais pas comme la nourriture, je vais pas mettre quelque chose de toxique dans la bouche. Bah, pareil pour cette sphère-là quoi. Donc il y a ça, prendre soin de sa santé vaginale. Je pense aussi à s'écouter en fonction de ses cycles. Alors là, plutôt, si on est sur des cycles naturels, les sécrétions, elles sont très différentes hein, au cours du cycle. Donc, c'est pas se dire tout mon cycle va être linéaire au niveau de ma santé vaginale. Bah non, c'est pas comme ça. Juste après les règles, on peut avoir un vagin qui est très très sec. Donc, bah on va plus l'aider, on va plus. Je sais pas, il y a des personnes, bah peut-être c'est pas le bon moment pour aller sur des relations sexuelles avec pénétration. Et donc, bah ce sera des relations sexuelles sans pénétration. On peut faire du sexe de mille manières différentes. La pénétration, c'est une des manières. Donc, c'est peut-être se dire, bah, mon corps, c'est juste pas OK. pendant quelques jours, il n'est pas OK et c'est pas grave, enfin, c'est cool, quoi. Pareil, pour la semaine avant les règles, il y a des personnes, bah, on aura beau faire ce qu'on veut, mettre du lubrifiant, c'est pas agréable, c'est au niveau hormonal, en tout cas, ça ne soutient pas assez de sécrétion. Bah, c'est pas grave, enfin, on l'accepte, on est comme on est, notre partenaire l'accepte, c'est un bon partenaire et on fait d'autres choses. Et je pense que ça, c'est assez important aussi d'avoir cette écoute-là du corps, de son corps, de ses besoins, de ses envies. Et ce que je repère dans les déséquilibres de la santé vaginale, très, très, très souvent, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un manque d'écoute de son alignement, de ce qu'on voulait, de ce qu'on voulait pas, de ce qu'on a réussi à dire oui, à dire non. Et je pense que ça, c'est tout un cheminement, en fait, d'apprentissage, quoi. Et je pense que je pourrais te donner des conseils en phytothérapie, en naturopathie, en genre, il y en a plein, il y en a mille. Effectivement, une fois que le déséquilibre est installé, on a des solutions, ça se règle vite. Mais pour prendre soin, pour éviter, bah, je pense qu'être à l'écoute et être bien accompagné et être dans une sphère sécurisante, donc pour nous-mêmes aussi, hein, ça parle de me sécuriser moi-même aussi, et avoir un partenaire sécurisant, je pense que c'est un peu la base, quoi.
Ouais, c'est fou. Et lorsque tu le dis, je prends conscience de moi aussi. Et je me dis, je pense que parfois, je ne suis pas assez à l'écoute de tout ça. Et il y a un vrai travail à faire, en fait, pour apprendre à se connaître soi. Et aussi, du coup, pouvoir le communiquer à notre partenaire. Ouais, il y a une vraie éducation, même pour les hommes, en tout cas, puisque dans un couple homosexuel, voilà. S'il y a deux femmes, par exemple, elles se découvrent aussi avec peut-être des mêmes cycles, mais ouais, c'est fou, je me dis, waouh, on a vraiment, enfin, moi, j'ai vraiment du travail à faire, et je pense pour beaucoup de gens au final.
Pour beaucoup, mais là, c'est vraiment un travail chez les femmes et chez les hommes, parce que moi, la première aussi, hein, y a, en fait, je m'écoute pas toujours parce qu'il y a, c'est très à déconstruire, quoi. De toute façon, on a été tellement conditionnés par, enfin, moi, il y a un terme que je déteste, je le trouve affreux, c'est le devoir conjugal, mais n'empêche que c'est ancré en nous, ça, le devoir conjugal. Et du coup, bah, à quel moment nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, il n'y a eu aucune éducation il n'y en a pas, il n'y a pas de devoir conjugal. Enfin, il faut t'écouter, il y a du plaisir, il n'y a pas de plaisir, il y a de l'envie, il n'y a pas d'envie. Bah, ça n'existe pas dans notre éducation, c'est tout à déconstruire. Donc, moi, la première, des fois, je me dis, ah, est-ce que j'y suis allée par envie, par plaisir ou par, je déteste ce mot, ce devoir conjugal, un peu en mode, bah, j'ai pas envie, mais c'est normal, enfin, c'est normal. Je pense que c'est tout un cheminement à déconstruire. Donc, nous, déjà, on doit faire l'effort d'apprendre à se connaître, voir, OK, c'est quoi mes émotions, c'est quoi mon truc, comment va ma santé vaginale, hormonale, etc. Voilà, tout à déconstruire, comment je vais au niveau
Construire.
émotionnel. Et après, réussir à faire comprendre à notre partenaire que, bah, on n'est pas comme lui, que nous, notre libido, elle fonctionne au niveau émotionnel et non pas mécanique. Et que ça, déjà, c'est déjà un énorme décalage entre l'homme et la femme, hein, sur un couple hétéro, que lui, bah, son besoin, il est peut-être assez linéaire, assez mécanique. Alors, il y a un peu d'émotionnel chez les hommes un peu connectés quand même, hein, un peu connectés à leurs émotions. Bah, il y a des fois, ils n'ont pas de libido parce que leur émotion dit non. Et ça, c'est encore un peu au-dessus, quoi. Mais ouais, c'est super compliqué, du coup, de déconstruire ça, quoi. Et l'homme, il pareil, hein, il est conditionné dans le même sens, hein. C'est normal d'avoir des relations sexuelles, je sais pas, 3 fois par semaine, tout le temps. Et du coup, de lui expliquer que, bah, en fait, bah, non, parce que, bah, la semaine avant les règles, on a moins envie, parce que, en sortie des règles, bah, on a envie de se réapproprier son corps après avoir perdu du sang pendant 5 jours. On a besoin de quelques jours de cocooning pour se réapproprier un peu, se recentrer. Il y a ça aussi. Enfin, et ça, bah, c'est tout un, les femmes et les hommes doivent se déconstruire, je pense, petit à petit, hein. Mais c'est dur, hein, c'est long. C'est tout un cheminement.
Ouais, c'est clair. Et puis cette croyance du devoir conjugal, c'était il n'y a pas si longtemps finalement. Donc il y a un vrai shift qui est en train de se passer où les femmes sont en train de vraiment se réempouvoirer. Et je pense que ça peut être même surprenant parfois pour les hommes. Il peut y avoir des réactions. Je me dis, waouh, le mec qui est vraiment à l'écoute de tout ça et tout, c'est waouh, pour lui, ça doit être fou aussi.
Ouais. Ah non, non, c'est... Enfin, en vrai, je pense que c'est difficile pour les deux, hein. C'est un chamboulement dans la relation de couple qui est pas facile, hein. Et même chez les homosexuels, hein, moi, j'accompagne des couples de femmes. On n'est pas tous aussi au même niveau parce qu'en fait, la libido, c'est très individuel. Donc, en fait, c'est même presque des fois plus compliqué parce que l'homme, il va chercher peut-être à comprendre quelque chose qu'il ne comprend pas, alors que bah, une femme, elle a ses cycles, elle comprend pas pourquoi l'autre, elle veut pas. C'est bon, elle sait ce que c'est, quoi. Donc, c'est pas si facile dans les couples homosexuels non plus pour en accompagner quelques-uns. C'est pas si simple. Donc, ouais, non, il y a un vrai... Enfin, on est en chemin, mais c'est compliqué quand même.
Ouais, merci de mettre tout ça en lumière. On reparlera de ce que c'est une femme puissante, mais avant qu'on arrive à cette question, j'avais envie de te parler, enfin de te questionner sur tout ce qui est contraception. Parce que tu l'as dit aujourd'hui, voilà, on va voir le gynéco, le médecin, et c'est vrai qu'ils vont nous orienter très vite vers bon, bah, y a la pilule, il y a le stérilet. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Qu'est-ce qui émerge même en termes de contraception? Qu'est-ce que toi tu conseilles peut-être? Comment t'accompagnes les femmes vers ça?
Il y a un peu tout qui existe hein, aujourd'hui, mis à part les contraceptions masculines, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a du hormonal, stérilet, pilule, implant, tout ça. Il y a du non-hormonal, donc plutôt du mécanique stérilet en cuivre, qui est de plus en plus mis, les préservatifs féminins, masculins, etc. Et le naturel, donc tout ce qui est symptothermie, Billings. J'irai dans le détail un peu... Mais je rebondis sur ta question, qu'est-ce que je conseillerais? Je conseille rien. En fait, ce que j'invite à faire beaucoup, c'est revenir à quel est mon besoin et quelle est ma pathologie et revenir à soi. C'est-à-dire que une contraception hormonale, elle peut être très, 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 très adaptée. Je sais pas, je prends l'exemple d'une cliente là, il y a pas longtemps. Elle a une endométriose qui est vraiment importante. Et elle a un rythme de vie qui est mais complètement acharné. Elle vit plein, 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 plein de choses en ce moment. Au niveau professionnel, au niveau personnel, c'est l'hécatombe. Ah bah clairement, oui, remets-toi sous pilule. Enfin, en fait, il y a un moment donné, tu peux pas être sur tous les fronts. Donc oui, à l'instant T, il n'y a pas la capacité à gérer au niveau naturel. Eh ben, on va aller sur une contraception hormonale. Donc en fait, j'ai pas de... Effectivement, de par mon expérience et de par tout ce que je sais, je peux que avoir envie que les personnes elles soient le plus naturelles possible parce que bah c'est une cata les études sur la pilule sur le long terme, c'est une cata sur plein de choses. Donc j'ai envie que les personnes elles soient en bonne santé sur le long terme, mais bah, chaque chose peut être adaptée en fonction de à quel moment t'en es dans ta vie. Et qu'est-ce que tu es prête à mettre en place? Par exemple, les méthodes naturelles qui sont de plus en plus à la mode, ou en tout cas, on en entend de plus en plus parler. Donc, symptothermie, c'est celle qu'on entend le plus parler. C'est la contraception où on vient prendre sa température tous les jours et étudier sa glaire cervicale. Donc, c'est vraiment la contraception, on revient à ce qu'on savait déjà d'avant. Ou ben quand on ovule, on a une montée de température, puis une chute, puis une remontée, et on a un certain type de glaire. Et là, on sait qu'on a ovulé, et ben, 24-48 heures après avoir confirmé l'ovulation, on sait que ça y est, c'est fini, on n'est plus fertile, on peut arrêter de se protéger et l'ovulation est passée, quoi.
Donc, il y a vraiment une absence de protection, disons si on connaît notre partenaire, après la phase d'ovulation.
C'est ça. C'est la symptothermie. Alors, on peut continuer à se protéger hein, si on veut. La symptothermie, elle demande 3 à 6 mois de formation avec une conseillère qui va venir aider à comprendre nos cycles, à comprendre nos ovulations, à les interpréter, etc. Une fois que on est bien calé et que on sait comment repérer son ovulation. Bah, en fait, un cycle, c'est ça, hein, un cycle, on oublie souvent, on a l'impression que, vous savez, toute notre vie, on nous a dit, attention, tu vas tomber enceinte, attention, tu vas tomber enceinte. Enfin, moi, je me souviens, quand j'étais ado, j'avais l'impression que je pouvais tomber enceinte presque en regardant un garçon, quoi. Tellement, non, mais je trouve que c'était très, très, très ancré. C'était attention, attention, attention. Et en fait, quand j'ai appris, et je l'ai appris tard, qu'on était fertile que 5 jours par mois, j'étais un peu en mode, what? Mais pourquoi j'ai pris la pilule pendant plus de 10 ans, tous les jours de toute ma vie, alors que je suis fertile 5 jours par mois? Enfin, et encore, moi, j'ai des cycles longs, alors bon, 5 jours tous les 1 mois et demi, quoi. Ah, ok, d'accord. Enfin, on m'a un peu entubée là, non? Donc, du coup, en fait, c'est ça qu'il faut. La symptothermie, ça vient rappeler ça. Ça vient rappeler que on va venir repérer la phase de fertilité qui dure, allez, entre 5 et 7 jours, quoi, max. C'est là où on peut tomber enceinte. Le reste du temps, on pas tomber enceinte parce qu'il faut que l'ovulation elle ait lieu, quoi. Donc une fois que l'ovulation elle est passée, on attend 24-48 heures, l'ovulation est passée, elle est confirmée parce qu'on est formé en symptothermie. Alors, attention, je vois beaucoup de femmes aussi qui se forment pas. Il faut se former, hein.
Comment on se forme?
Il y a des conseillères ou des formations en ligne. Alors moi je peux que conseiller vraiment des conseillères qui sont top et qui viennent nous aider à interpréter nos cycles, à nous aider à mettre en place la méthode, à vraiment être performant, parce qu'on peut faire un peu. Une fois qu'on est formé, il y a plus de. La contraception est plus sûre en symptothermie qu'en pilule, par exemple. Quand on est formé et qu'on utilise bien la symptothermie. Quand on l'utilise mal, ben, là, c'est plus compliqué. Donc, il faut vraiment être formé. Ça ne demande pas beaucoup, hein. Ça demande 2, 3, allez, 4 consultations avec une conseillère et ça y est, hein, on peut le faire nous-mêmes, hein. Donc, ouais. Et ça, pareil, hein, pour la connaissance de son corps, c'est dingue, hein. Franchement, c'est incroyable, hein, d'avoir cette connaissance approfondie de son cycle.
Si tu as des recommandations de conseillères, je voudrais bien que tu nous les donnes et je le mettrai dans la fenêtre de l'épisode.
Oui, complètement. Ouais, je travaille avec une particulièrement qui j'envoie mes clientes, qui est top, 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 enfin, qui est géniale, Anaïs. Donc, je te donnerai.
Et donc, il y a la symptothermie, il y a autre chose dont tu parlais en termes de contraception naturelle?
En contraception naturelle, il y a une autre méthode qui s'appelle Billings, qui est un peu moins connue, qui ne vient pas prendre en compte la température du corps. C'est uniquement, alors je dis uniquement entre gros guillemets parce que ça demande une observation très approfondie, mais approfondie de la glaire cervicale, donc nos sécrétions vaginales tout au cours du cycle. Donc tout au long du cycle, on a des sécrétions, on vient les observer, les étudier et grâce à ça, pareil, toujours dans la même idée, repérer sa fenêtre de fertilité, savoir quand est-ce qu'on ovule, savoir quand est-ce que ça y est, l'ovulation est validée, terminée, merci, au revoir. Et qu'on est plus fertile jusqu'au prochain cycle. Donc ça, c'est une autre méthode. Pareil, j'ai une conseillère avec qui je travaille quand les personnes préfèrent la méthode Billings. C'est une méthode qui est différente. On a l'impression que c'est pareil, mais c'est assez différent. Donc ça dépend vraiment de la personne, ce qu'elle compte faire. Billings, c'est un chouïa plus adapté aux personnes qui peuvent pas prendre leur température tous les matins à la même heure, qui ont un rythme de vie nuit, jour. Voilà, qui peuvent pas prendre leur température. Bon, bah, Billing sera plus adapté.
Trop bien. Si tu as des ressources, je serais preneuse aussi. J'avais jamais entendu parler de cette dernière forme de contraception ou d'observation de ces glaires cervicales, en effet. Et je trouve que ça peut être intéressant, pareil, d'apprendre à se connaître là-dessus.
Ah, bah, c'est une farce.
On arrive à notre dernière question. Et donc, je l'ai déjà un petit peu mentionné, mais c'est qu'est-ce que c'est pour toi une femme puissante?
Je trouve que c'est intéressant comme question dans la formulation. C'est très personnel, hein, mais disons que je me projette sur autour de moi qui je trouve puissante et qu'est-ce qu'elle fait pour que je la trouve puissante. C'est un peu. Et en fait, c'est des femmes qui s'assument, mais pas dans le sens. Pas dans le sens. Je me montre et je suis. Voilà, une extravertie sera pas forcément quelqu'un que je trouverais puissant. C'est vraiment plus une personne qui a fait le travail. Vraiment de savoir qui elle était en dehors des injonctions, en dehors de ce qu'on attendait d'elle. Tu sais, là, cette femme qui a creusé un peu toutes ses parts d'ombre et en gros, qui est ancrée dans son essence profonde, son essence pure. Tu vois, moi, pour moi, c'est un peu ça, une femme puissante. Elle a déconstruit assez pour ne pas être ce qu'on attend d'elle en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant que fille. En tant que, ouais, juste, elle a assez déconstruit pour être qui elle est, quoi. Je pense que c'est un peu ça, être puissante. Il y a un peu cette notion aussi de, chez les femmes, de savoir être seule. Tu sais, là, c'est pas dans le sens, pas dans le sens je suis indépendante, j'ai besoin de personne. Pas ce type de je sais être seule qui est un peu en colère. Mais vraiment ce truc de en fait, je suis pleinement entière seule. Je me débrouille, je suis indépendante financièrement, je suis complètement un être à part entière en étant seule. Et ça, pour une femme, c'est assez dingue parce que il y a 50 ans, on pouvait pas être pleinement entière. Bah déjà, on avait besoin de notre conjoint pour avoir un compte bancaire, donc déjà, c'était compliqué. Donc il y a ce truc où en fait, c'est tout récent. Et pour moi, une femme puissante, c'est celle qui a réussi, alors que c'est tout récent, à être pleinement cette personne qui est absolument entière seule. Et puis, bah, si elle ajoute quelqu'un à sa vie, c'est vraiment un ajout. C'est OK, tu ajoutes du plus à ma vie, je peux t'accueillir, mais j'ai pas besoin de toi. Je suis indépendante, je peux vivre seule, je peux me débrouiller seule, je suis indépendante financièrement. Ce qui n'est pas facile d'être indépendante financièrement, je le vois de plus en plus en accompagnant des femmes. C'est pas si facile, mine de rien, encore aujourd'hui en 2023. Donc non, ouais, je pense qu'une femme puissante, c'est celle qui a vraiment déconstruit et qui assume qui elle est sans porter trop de masques, quoi. J'y crois pas trop à ce développement personnel de se dire qu'on peut ne jamais porter de masque. Le monde irait super mal si les gens portaient pas un peu de masque pour se contrôler dans la société. Mais en tout cas, le porter le moins de masques possible dans la société. Et ouais, je pense que c'est ça une femme puissante. Je sais pas ce que t'en penses, mais en tout cas, c'est ma vision.
J'adore, j'adore. Et je suis trop contente de te poser cette question parce que depuis le début de la conversation, je sens chez toi cette énergie de la femme puissante. C'est
Bah écoute,
vrai?
si un jour je peux l'incarner, franchement,
Ben, je te
j'y
dis,
travaille.
tu renvoies ça pour moi et je sens que ça peut être à la fois déstabilisant et à la fois assez impressionnant, en fait, d'être dans cette énergie-là, parce qu'on sent que c'est une femme qui a creusé, qui a fait ses recherches, qui s'est posé des questions, qui a osé remettre en question certaines croyances. Et du coup, c'est beau et c'est déstabilisant et il y a une certaine, il y a une espèce de centrage, quoi, qui se crée. Donc,
Ouais.
ouais, je suis trop contente de t'avoir posé cette question et je voulais te dire que je le vois, cette femme puissante, chez toi.
Ah bah c'est c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire, hein, franchement.
Ben, je suis ravie.
Mais je rebondis, mais c'est vrai, c'est peut-être déstabilisant parce que je trouve que les femmes, elles le font beaucoup ce travail. En tout cas, il y a vraiment un mouvement où elles le font beaucoup. Je sais pas si tu le vois autour de toi, mais mes amis, enfin moi, je suis entourée de nanas. Je me dis, mais waouh, elles sont super badass, quoi. Et j'ai moins ça avec les hommes. Il y en a autour de moi qui, voilà, qui font un peu très, mais c'est plus timide pour l'instant. Je pense qu'ils ont moins besoin de s'émanciper aussi de la société, hein. C'est plus confortable pour eux. Mais c'est déstabilisant parce que du coup, quand tu fais tout ce travail sur toi, tu peux être centré à l'intérieur de toi, mais décentré par rapport à autour de toi. Toi, t'avances, c'est autour de toi, non. Et du coup, ça peut être hyper déstabilisant de se dire, je suis en train d'évoluer et en fait, autour de moi, ça évolue pas aussi vite, quoi. Les gens, la société, le milieu professionnel, etc. Et ça, je pense qu'une femme puissante, bah, elle est sacrément courageuse pour faire ce chemin-là parce que bah, l'imbécile heureux, moi, je la comprends, cette expression, hein. Des fois, bon, bah, c'est bien de pas savoir, quoi. Donc, ouais, je suis d'accord avec ce que tu disais sur l'ambivalence.
Est-ce qu'il y a une autre chose que tu as envie de partager avec les gens qui nous écoutent aujourd'hui?
Je crois qu'on a déjà parlé de pas mal de choses. J'ai pas beaucoup plus à rajouter.
Super. Ben, merci beaucoup en tout cas pour tous ces partages. J'ai vraiment apprécié aussi le fait qu'on sente chez toi qu'il y a un travail qui est vraiment ancré, où tu es experte dans ton domaine. Voilà, je pense que dans la conversation, on est resté sur quelque chose d'assez bah ouais, d'assez ancré dans la matière et pourtant qu'on se soit aussi autorisé à partir dans quelque chose d'un petit peu plus spirituel. Et j'apprécie vraiment ça chez les gens aussi que j'interviewe, qu'ils aient cette possibilité de mettre un peu les deux casquettes et d'être un peu des spiritual activists, mais un peu cachée derrière ce masque peut-être dont tu viens de me parler. Donc, merci infiniment pour cette conversation. Je mettrai en lien dans la fenêtre de l'épisode ton site internet, la possibilité aux gens de se procurer ton livre et puis bien sûr du coup d'être en contact avec toi. Même sur les réseaux sociaux, tu poses des trucs géniaux. Donc, si vous ne suivez pas encore Jennifer Laurent, je vous invite vraiment à aller la suivre. Merci beaucoup, Jennifer, encore une fois.
Merci à toi, merci beaucoup.
Merci d'avoir été avec nous pour cette conversation. J'ai été hyper inspirée par les mots de Jennifer et tout ce qu'elle a partagé. J'avais jamais vraiment entendu parler de symptothermie. Enfin, j'avais peut-être vu ça sur les réseaux sociaux, mais pas de manière poussée, disons, sérieuse comme ça. Et moi, je vais prendre rendez-vous dès le début de l'année pour commencer ce processus. J'adorerais savoir ce qui t'a le plus parlé dans cette interview, ce que tu as appris. N'hésite pas à venir nous voir sur Instagram et à laisser un commentaire sous le post Instagram de l'épisode de cette semaine pour nous dire ce qui t'a plu. Et puis, tu le sais, je donne beaucoup d'amour à ce podcast que j'adore. Mais lorsque vous me laissez un commentaire écrit, ça me remplit le cœur et ça permet aussi au podcast de se développer, à cette communauté de s'agrandir. Et ça, c'est génial. Donc, tu peux te rendre sur l'application Apple Podcast et me laisser 5 étoiles et un commentaire écrit. Et comme toutes les semaines, je vais lire un commentaire. Et aujourd'hui, c'est celui de Cindy qui laisse 5 étoiles et qui dit: merci. Environ 2 mois que j'écoute les podcasts d'Anouk et je les trouve super inspirants. J'aime beaucoup la douceur avec laquelle elle aborde chaque sujet. Merci pour l'énergie que tu y mets et ce que tu nous transmets. Merci beaucoup, Cindy, pour ce commentaire. J'adore la douceur. Pour moi, tout doit être communiqué avec douceur. C'est hyper important, c'est vraiment une qualité que je trouve belle et ça fait aussi partie de mon hypersensibilité, donc merci de l'avoir remarqué. Et puis si tu souhaites être le commentaire de la semaine, tu sais que tu peux te rendre sur l'application Apple Podcast pour me laisser un petit commentaire, ça me fait super plaisir. N'oublie pas également de t'abonner pour être sûr de ne louper aucun épisode. Et puis comme toutes les semaines, ça a été un grand plaisir d'avoir été dans tes oreilles. Et si personne ne te l'a dit aujourd'hui, alors laisse-moi te rappeler que tu es une queen et que tout est possible. Crois en toi and keep going beautiful. Je te souhaite une journée, soirée fantastique et encore une fois, une année pleine de folie. Je te dis à la semaine prochaine.